êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Le début de l'offensive russe en Ukraine il y a un an plus tard, aucune perspective de paix. Le ministre ukrainien de la Défense annonce que l'Ukraine prépare une contre-offensive contre l'armée russe. Vladimir Poutine a notamment annoncé cette semaine que la Russie suspendait sa participation au traité New Start sur le désarmement nucléaire. Notre invité sera Jean-Marie Collin, directeur d'ICAN France, ICAN qui publie une année de menaces nucléaires. Un an après le début de la guerre en Ukraine, nous écouterons également le député de la Meuse, Bertrand Pancher, président du groupe Liot à l'Assemblée nationale, pour qui il faut continuer à armer l'Ukraine. La police tunisienne a arrêté l'opposant Jawar Ben Mbarek. Il est l'un des principaux dirigeants du Front de salut national. La solidarité pour les victimes des séismes en Turquie et en Syrie. Gros plan dans votre journal sur l'action de l'œuvre d'Orient en Syrie avec son directeur, Mgr Pascal Golnisch. Cette annonce du Vatican, le Saint-Siège annonce l'établissement de relations diplomatiques avec le sultanat d'Oman. Ce vendredi marque le premier anniversaire de l'offensive russe en Ukraine. Depuis le début de la guerre, plus de 87 000 crimes de guerre ont été enregistrés dans le pays. Au cours d'un discours à la Nation prononcé mardi à Moscou, Vladimir Poutine a notamment annoncé que la Russie suspendait sa participation au traité New Start sur le désarmement nucléaire. Nous y revenons avec Jean-Marie Collin, directeur d'ICAN France, chercheur associé au groupe de recherche et d'information sur la sécurité et la paix. ICAN France qui publie ce mois-ci une année de menaces nucléaires. Jean-Marie Collin.
C'est un traité qui a été mis en œuvre par Barack Obama et Dmitry Medvedev en 2010 et qui est rentré en vigueur en 2011, qui a été prolongé par leurs successeurs Poutine et le président Biden en février 2021 jusqu'en 2026. L'objectif de ce traité de contrôle des armements est de limiter le nombre d'armes nucléaires et le nombre d'engins susceptibles d'emporter ces armes nucléaires, afin d'assurer une sorte d'équilibre des forces et de diminuer les tensions et de créer aussi un certain axe de confiance, puisqu'il y a des inspections sur les sites américains et russes qui sont autorisées. Il y a la réunion normalement deux fois par an d'une commission pour vérifier l'état des stocks, échanger un certain nombre de données. Donc l'objectif depuis 2010 était véritablement d'instaurer une confiance, de créer dans cette limitation des arsenaux potentiellement employables, avec l'idée potentielle qu'à la suite de ce traité New Start, il y ait un futur traité qui puisse aussi engager un processus, cette fois véritablement, de désarmement. Or, aujourd'hui, ça paraît évidemment extrêmement complexe d'imaginer la création d'un futur traité, sachant que celui-ci est déjà dans une sorte de coma avec l'annonce de la suspension de ce traité par la Russie.
Vladimir Poutine qui s'est livré à des menaces de guerre nucléaire et la suspension de ce traité, est-ce un signe particulièrement inquiétant ?
Exactement, en fait, oui, c'est évidemment inquiétant. Mais ce que l'on peut remarquer, c'est qu'en 2022, il s'est attaqué, il a proféré un certain nombre de menaces d'utilisation d'armes nucléaires de façon directe et indirecte. Et cette année 2023, s'il poursuit ses menaces, cette fois, il s'attaque aussi à l'architecture mondiale de non-prolifération et de contrôle des armements. Et ça, c'est un nouveau danger qui émerge et qui peut créer des précédents, qui peut aussi engager d'autres États à potentiellement débuter un non-respect de ces différents traités auxquels ils peuvent être astreints, en particulier le traité de non-prolifération nucléaire.
Cette menace nucléaire, estimez-vous qu'elle est suffisamment prise au sérieux aujourd'hui par les différents États ?
En tout cas, officiellement, on en parle très peu, probablement dans l'objectif de ne pas créer de panique ou d'interrogation de la part du public, ce qui est fort dommage, puisque face à une menace, normalement, la population devrait être avertie. Par exemple, face à des menaces du dérèglement climatique, face à des menaces potentielles d'actes terroristes ou d'accidents nucléaires civils, il y a des exercices qui sont réalisés chaque année en France, si je prends le cas de la France. En décembre dernier, il y a eu un exercice en cas d'une problématique d'une centrale nucléaire dans le nord de la France. Ici, il n'y a pas d'exercice, tout simplement parce que les gouvernements savent qu'ils ne pourraient rien faire. Et s'ils ne peuvent rien faire, c'est bien qu'il faudrait s'attaquer avant qu'il y ait cette possible utilisation d'armes nucléaires Et c'est bien ce qui n'est pas réalisé aujourd'hui. Tous les États poursuivent des programmes de modernisation et de développement de leurs arsenaux nucléaires, et ce qui nous fait forcément courir un risque de plus en plus majeur, et encore plus face à une personne qui ne cesse de brandir la menace de l'utilisation d'armes nucléaires. Donc, non, les gouvernements ne prennent pas assez au sérieux vis-à-vis du public cette information, et c'est pour ça que d'autres États tentent de le faire à travers le traité sur l'interdiction des armes nucléaires.
Et lorsque le risque d'escalade est évoqué, il s'agit bien de cette menace nucléaire.
Oui, oui, tout à fait. C'est bien cette menace-là, l'escalade nucléaire qui est annoncée. Bien sûr, cette escalade a différents barreaux. Elle peut être plus ou moins importante, l'étape ultime étant malheureusement la possible utilisation d'une arme nucléaire. Mais aujourd'hui, elle se traduit depuis un an par une montée des tensions, par une multitude de discours. Aujourd'hui, donc depuis hier, par l'annonce que la Russie suspend sa participation à ce traité, que potentiellement aussi elle s'autorise le droit de réaliser un essai nucléaire si jamais les États-Unis devaient en réaliser un. Ce qui apparaît pour le coup totalement improbable, mais ça veut dire qu'elle pense aussi avoir le droit de réaliser cet essai nucléaire, alors que là aussi, elle s'est interdit ce droit à partir d'un autre traité. Donc on voit bien qu'il y a une escalade qui est faite à différents niveaux, et il y a besoin d'une pression internationale forte sur cette menace nucléaire. C'est pour ça, par exemple, qu'au mois de mai va se tenir le G7 à Hiroshima. Un certain nombre d'États, un certain nombre de campagnes comme la nôtre, ICAN, demande à ce que les 7 pays qui seront présents au G7 enclenchent un véritable processus fort pour dénoncer à la fois l'emploi et la politique d'emploi de l'arme nucléaire.
Lors de la prise d'une telle décision éventuelle, le président russe est-il seul à avoir le pouvoir de prendre cette décision, ou alors est-il entouré pour cela?
Alors on n'a pas l'exacte connaissance du processus de l'envoi de l'ordre auprès des forces, par exemple sous-marines russes. On ne sait pas si exactement il est le seul à pouvoir mettre en œuvre cet ordre, ou s'il doit avoir l'assentiment aussi notamment du ministre de la Défense, c'est-à-dire qu'il viendrait corroborer cet ordre. Donc là, on a un certain flou, un flou qui est dangereux et qui renforce ce doute aujourd'hui.
Le fait que cette annonce ait été faite un an après le début de la guerre en Ukraine, comment vous interprétez cela?
Quelques jours avant le début de cette invasion illégale russe en Ukraine, il y avait eu des exercices nucléaires stratégiques, il y avait eu l'annonce aussi de la mise en état d'alerte haute de l'ensemble des forces nucléaires stratégiques russes. Aujourd'hui, un an plus tard, on est toujours dans ce même état d'être, et en plus, Poutine donc annonce la suspension de ce traité NUSAR. Donc on voit bien qu'il ne cesse de brandir la menace d'emploi de l'arme nucléaire, ce qui montre bien que l'arme nucléaire n'apporte absolument pas la paix, mais permet justement aujourd'hui à la Russie de réaliser un certain nombre d'atrocités, de crimes de guerre, d'invasions illégales. C'est aussi pour cette raison qu'il est actif de préparer dès aujourd'hui le futur du désarmement nucléaire dès que cette guerre prendra fin, le plus rapidement possible, il est à souhaiter. Mais c'est dès aujourd'hui qu'on doit préparer, que les gouvernements doivent se préparer à mettre un terme à cette menace à l'humanité.
Jean-Marie Collin, directeur de ICAN France, chercheur associé au groupe de recherche et d'information sur la sécurité et la paix, ICAN France, qui publie ce mois-ci une année de menaces nucléaires. L'Ukraine prépare une contre-offensive contre l'armée russe, une annonce du ministre ukrainien de la Défense. Nous frapperons plus fort et à de plus grandes distances dans les airs, sur terre, en mer et dans le cyberespace. Il y aura notre contre-offensive. Nous travaillons dur pour la préparer, selon ses mots en ce jour de premier anniversaire de cette guerre. Pour le président du groupe Liot à l'Assemblée nationale en France, le député de la Meuse, Bertrand Penché, il faut continuer à armer l'Ukraine. Il est l'invité de Pluriel à 19h et 23h, extrait.
On a bien vu que face aux tyrannies et cette carte Poutine, il n'y a aucune possibilité de discussion. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on continue à aider massivement l'Ukraine. Les Ukrainiens sont particulièrement courageux. On annonçait que ce pays allait tomber en quelques semaines. C'était ce que nous avaient confié des hauts responsables militaires l'an dernier, à quelques jours de l'ouverture de ce conflit. Les Ukrainiens ont pris de sang et de larmes tiennent. Il faut que l'on continue à armer l'Ukraine, et il faut que l'Ukraine chassent les Russes de leur territoire.
Est-ce qu'il faut s'inquiéter de l'attitude de Vladimir Poutine qui se retire du traité START de réduction des armes stratégiques? Il pourrait aussi se rapprocher militairement de la Chine et il continue à attaquer violemment les valeurs occidentales.
Oui, bah évidemment qu'il faut s'en inquiéter. C'est la raison pour laquelle il ne faut surtout pas caler. Si l'Ukraine venait à tomber, c'est ensuite les républiques baltes demain, la Moldavie, c'est tous les pays que l'on essaie également de protéger partout dans le monde. Et puis, ça serait aussi un très mauvais signal donné à la Chine. Et je pense notamment à Taïwan. Donc, il faut vraiment faire en sorte qu'on soit solide, qu'on continue à armer les Ukrainiens et qu'on explique qu'évidemment, on souhaite que la Russie rentre à nouveau dans un processus de paix. Mais il faut que les Russes comprennent qu'il n'y a pas d'issue dans cette guerre contre nos valeurs, contre l'Europe et aussi contre les États-Unis.
Bertrand Pancher, député de la Meuse, président du groupe Lyotte à l'Assemblée nationale. Il est l'invité de Pluriel à 19h et 23h, émission présentée par Loïc Barrière. Une figure de la gauche a été arrêtée en Tunisie. Jawar Ben Mbarek est l'un des principaux dirigeants du Front de Salut National. Une vingtaine de personnalités dans les milieux politiques, médiatiques et des affaires ont été arrêtées ce mois-ci en Tunisie. Une campagne qualifiée par Amnesty International de chasse aux sorcières motivée par des considérations politiques. De son côté, le président Kais Saied a qualifié les personnes arrêtées de terroristes et affirmé qu'elles étaient impliquées dans un complot contre la sûreté de l'État. L'Union européenne a annoncé l'assouplissement temporaire de ses sanctions à l'égard de la Syrie pour faciliter l'acheminement de l'aide dans ce pays, touché lui aussi par le séisme du 6 février dernier. Les organisations humanitaires n'auront plus besoin de demander l'autorisation préalable des États membres de l'Union pour envoyer du matériel ou fournir des services aux entités soumises à ces sanctions. La solidarité pour les victimes des séismes en Turquie et en Syrie. Après cette tragédie, plus de 45 000 personnes sont mortes. Gros plan sur les actions de l'œuvre d'Orient en Syrie. Entretien avec son directeur, Mgr Pascal Golnisch.
Tragédie, c'est vraiment le mot qui convient. Des dizaines de milliers de morts et ça veut dire aussi évidemment bien plus de blessés, de maisons détruites. Ça veut dire aussi des vies détruites car quand on a perdu sa maison, on n'a plus d'avenir, on n'a plus de futur, on est complètement dans le désarroi. Donc toute aide est non seulement est importante sur le plan pratique, évidemment les sauveteurs, ceux qui vont aider à la reconstruction, mais c'est toujours aussi une action pour remonter le moral des populations. Et ceci est très important. Il ne faut pas que les populations soient complètement hors de tout moral. Alors, nous avons voulu concentrer notre aide sur la Syrie. Pourquoi ? Parce que nous pensons que l'aide internationale est allée prioritairement en Turquie, en particulier l'aide des pays européens, ce qui est très bien que ça aille en Turquie, mais qu'en Syrie, l'aide est arrivée beaucoup plus difficilement pour des raisons de blocage politique. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais c'est arrivé beaucoup plus difficilement. Les conditions d'infrastructure sont beaucoup plus difficiles parce que les points de passage aux frontières sont peu nombreux. Pour bien faire, il faut passer par le Liban, mais comme vous le savez, le Liban lui-même est en crise difficile. Donc nous avons concentré notre aide sur la Syrie, et selon la manière habituelle que nous avons de procéder, il s'agit d'aider des instances chrétiennes à aider l'ensemble de la population. Voilà. Donc nous avons très vite, dès le premier jour du drame, notre correspondant au Liban est arrivé sur place à Alep, avec un camion de 5000 couvertures. Vous allez me dire que c'est une goutte d'eau dans l'océan des besoins, mais en même temps, pour les 5000 personnes qui ont une couverture, ils ont eu moins froid, parce qu'il fait très froid en Syrie actuellement, et les températures sont négatives. Donc les gens qui ont dû quitter leur logement, soit parce qu'il était détruit, soit parce qu'il était dangereux, se sont retrouvés logés dans les églises, dans les mosquées. Et nous avons apporté ces 5000 couvertures aux évêques d'Alep qui les ont données et dans les églises et dans les mosquées. Voilà. Alors ensuite, nous avons repéré 17 lieux en Syrie, depuis Latakié jusqu'à Alep, d'assistance à la population. Alors la première assistance, c'est parfois des questions de nourriture, des questions de médicaments, des questions de lait maternel. Voilà, c'est le premier stade. Le premier stade, c'est d'abord d'essayer de sauver ceux qui sont dans les débris d'immeubles. Mais ça, ce n'est pas notre travail, nous n'avons pas compétence pour cela. Après ça, il faut donc une aide d'urgence pour des produits de base. Donc 17 lieux qui aident l'ensemble de la population. Et c'est cela que nous voulons aider. Nous allons revenir lundi, mais ce n'est pas très facile parce qu'il faut obtenir des visas, ce n'est pas très simple. Hein. Nous allons revenir lundi, sans doute avec du lait maternel, là aussi, l'Attaquié, Alep et la région qui se trouve entre les deux. Voilà. Ensuite, il y a un deuxième stade qui va commencer, c'est reloger ces personnes, peut-être dans des bungalows. Nous avons eu l'habitude, dans des différentes crises, où on a mis des gens dans des tentes. Vous allez dire, les tentes, c'est pas parfait, c'est pas génial. Mais c'est mieux que d'être dehors. C'est mieux que d'être dehors. Parce que la famille peut se reconstituer. Voilà. Il faut aussi veiller à la scolarisation des enfants. Non pas tant pour que les enfants ne perdent pas, je ne sais pas, un mois de classe, qui ne serait pas quand même catastrophique. C'est parce qu'un enfant déscolarisé, c'est une famille désocialisée. Donc il faut garder ce lien de l'école, et en particulier en Orient, l'école joue vraiment un rôle social très important. Le rôle que parfois jouent les mairies est en fait souvent joué par les écoles dans des pays comme la Syrie. Donc la scolarisation des enfants, évidemment continuer à pouvoir soigner les blessés, parce que le nombre de blessés est souvent le double, le triple du nombre de morts, voilà. Et ça, c'est le deuxième niveau d'intervention où nous allons également donc déployer notre aide. Mais vous voyez, toujours en écoutant les besoins locaux. C'est notre ADN, si vous voulez, c'est notre manière de faire. On se met à l'écoute des gens locaux qui veulent aider, encore une fois, l'ensemble de la population. Il ne s'agit pas d'aider les uns et pas les autres. Il s'agit d'aider tout le monde à travers les lieux que nous connaissons, qui sont donc des lieux gérants d'inspiration chrétienne, et de leur donner les moyens d'aider. Voilà, nous aidons à aider. Et je crois que c'est la meilleure chose à faire, parce que vouloir décider tout seul, depuis Paris, depuis je ne sais où, généralement, on n'arrive pas à de bons résultats. Ce sont les locaux qui savent ce qu'ils veulent faire, et je vous l'ai dit, la nourriture, le lait, les médicaments, le relogement, la scolarisation des enfants. Ce sont les éléments prioritaires.
Le directeur de l'œuvre d'Orient, Mgr Pascal Golnisch, les autorités turques ont lancé 564 enquêtes visant des promoteurs et des entrepreneurs dont les immeubles se sont effondrés depuis le séisme du 6 février. 160 d'entre eux ont été écroués, 18 sont en garde à vue, 175 ont été libérés sous contrôle judiciaire. Des dizaines de milliers d'immeubles se sont écroulés par la violente secousse d'une magnitude de 7,8. Enfin, le Saint-Siège annonce l'établissement de relations diplomatique avec le sultanat d'Oman. C'est une première dans les liens entre l'Église catholique et cette monarchie du Golfe. Oman devient ainsi l'un des quelques 180 États ayant des relations diplomatiques officielles avec le Saint-Siège. Fin de cette édition. Vous êtes bien sûr Radio Orient, à 12h30, votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash, 17h30 pour le journal. Il est précisément 12h18. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.